Salut tout le monde et bienvenue à une autre édition du podcast Sortie de zone. Mon nom c'est Jérémy Filosa. Merci d'être là en notre compagnie encore une fois aujourd'hui. Petite semaine entre guillemets de congé pour le Canadien, mais ce ne sont pas les sujets qui manquent comme à l'habitude. Nos panélistes pour l'émission d'aujourd'hui, Michael Lalancette qui est ici avec nous en studio aujourd'hui. Salut Michael.
Salut.
Jérémy Rainville du 98.5. Salut Jérémy.
Salut Philo.
Et Alexandre Pratt de la presse comme à l'habitude. Salut Alexandre.
Salut.
Bon, les gars, première question, parce que là, bon, vous le savez, là, c'est toujours la même question qu'on se pose quand une équipe est en congé pendant quelques jours. Êtes-vous plus ils vont être opposés ou êtes-vous plus ils vont être rouillés? Michael, je commence avec toi.
Ben, peut-être un peu des deux, mais sur le moyen long terme, ça va être, je pense, une semaine qui est payante, ça. Parce que profiter de l'entraînement, puis surtout quand tu as vécu une période un petit peu plus difficile, de revenir comme ça, de t'éloigner un petit peu de la cadence de match, puis tout ça, moi, je pense que ça va être bénéfique. Est-ce que dans le prochain match, le Canadien va être rouillé? Peut-être, mais ça va être juste positif pour la suite.
Ben, en tout cas, moi, j'ai été un peu surpris de la façon dont on a organisé la semaine. C'est sûr qu'on n'est pas habitué à des semaines de congé de ce style-là, étant donné qu'on est dans une saison assez particulière. Je me serais attendu à un petit peu plus de repos. Finalement, on a départagé ça quand même de façon intéressante avec un congé jeudi. Jérémy, qu'est-ce que tu en as pensé?
Ben, écoute, tu poses la question, est-ce qu'ils seront plus reposés ou est-ce qu'ils seront rouillés pour le match contre les Leafs? Moi, c'est ni un ni l'autre. C'est, ils sont mieux d'être explosifs. Parce que si tu es reposé, ça se peut que tu sois un peu trop calme. Ouais. Si tu es rouillé, tu vas te faire manger tout cru. Puis si tu veux bien entreprendre cette portion complètement malade mentale du calendrier qui s'en vient pour le Canadien, c'est t'exploses au match numéro 1 et t'exploses au match numéro 2 parce que t'en as deux en fin de semaine. T'as pas le choix d'être explosif et de retrouver tes bonnes habitudes de travail.
En tout cas, si le Canadien va ressembler à partir de demain au Canadien du début de la saison, ça devrait être assez explosif. Alexandre, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, tout à fait. Puis moi, je pense que la semaine a quand même été bénéfique. Je pense que si le Canadien avait perdu son dernier match avant son long congé, là ça aurait été un petit peu différent, tu sais, là ça brasse un petit peu de merde, puis toute la semaine on aurait cherché probablement des bobos, tout le monde, les partisans, les journalistes, même les coachs, les joueurs entre eux, mais là ça a quand même parti sur une note positive. Puis je pense que l'ambiance semblait plutôt bonne autour de l'équipe cette semaine. Fait que je pense que non. Au contraire, il y en a probablement profité pour travailler aussi sur des petites choses là qui grinçaient là dans les dernières semaines. On a souvent parlé ici, mais tu sais, les mises au jeu, entre autres. T'sais, déjà, il travaillait beaucoup là-dessus la semaine dernière. Puis l'avantage numérique avait quand même besoin d'un coup de barre aussi. Donc non, je pense qu'au contraire, ça va être plutôt bénéfique là, pour le Canadien.
Bon, quand on regarde le classement, parce qu'il y en a sûrement qui ont peut-être eux aussi pris une semaine de congé cette semaine, ont regardé d'autres choses, ont peut-être fait un peu plus de Netflix que de RDS ou TVA Sport, peu importe. Là, on se réveille ce matin en se rendant compte que, whoop-a-la, Toronto a 28 points, 8 points de plus que le Canadien. Vous allez me dire que le Canadien a des matchs en main, ils en ont 3, c'est vrai. Mais quand on regarde ça froidement, présentement, on a Toronto qui, on dirait, commence à se détaché du peloton. On a un peloton du milieu très serré entre la deuxième place et la sixième place entre le Canadien et les Canucks. Attention, les Canucks, on disait que c'était un club de pourri. Il y a juste 3 points d'écart.
La défense, c'est encore le cas.
Ben oui, mais il y a quand même là que 3 points d'écart entre les deux clubs. Tu vas me dire encore une fois qu'il y a des matchs en main, c'est vrai. Et t'as Ottawa, malheureusement, qui a beaucoup de difficultés, 9 points seulement.
Il y a 5 matchs en... Le Canadien a 5 matchs en main sur les Canucks quand même.
Ben oui, ouais, t'as raison. Oui. Exactement. Exactement. Mais est-ce que les gars, faut déjà commencer à oublier un peu les Maple Leafs? Est-ce que cette équipe-là, tu sais, plus que les semaines vont avancer, plus que la tendance va faire en sorte qu'ils vont se détacher?
Ben, moi, je pense que la prochaine semaine, sans dire qu'elle est déterminante, elle est quand même baromètre. Premièrement, tu vas mesurer un peu l'envergure du Canadien pour une semaine chargée. C'est 5 matchs dans une fenêtre de 7 jours. Il y a à peu près toutes sortes d'équipes là-dedans. Les Sénateurs, il y a les Jets, il y a les Leafs. T'sais, si le Canadien, la série d'insuccès, là, les victoires rentrent pas assez rapidement dans cette semaine-là, ben ça va être dur de rattraper Toronto. Après ça, moi, c'est mon impression quand je vois un peu la semaine qui attend le Canadien dans les 7 prochains jours.
Ouais, écoute, quand je regarde les Maple Leafs jouer, les gars, depuis une couple de jours, là, notamment, t'sais, si je regarde Austin Matthews, c'est malade, là. Je veux dire, il a déjà 16 buts cette année. En 17 matchs, il en a marqué 10 depuis le début du mois de février. On est juste le 19, là, by the way. Hein? Et le Canadien va lui faire face. Et ça donne que la dernière fois qu'il a pas marqué dans un match, c'était contre le Canadien. Parce que dans les 3 derniers matchs, il en a marqué 5. Vous allez me dire, il y a des games contre les Sénateurs là-dedans. Mais quand même, tu sais, je veux dire,
il compte, celle-là, il compte.
Oui, exactement.
Mais... Moi, messieurs, là, je vais vous dire, OK, c'est le fun. Là, j'ai l'impression que le seul objectif, c'est les Leafs de Toronto parce que eux ont plus de points, mais je suis pas convaincu que c'est comme ça que ça fonctionne dans le vestiaire du Canadien. Tu sais, l'objectif, c'est de bien jouer à chaque match. On a eu une bonne troisième période contre les Leafs de Toronto, mais là, faut bâtir sur trois bonnes périodes contre les Leafs et trois bonnes périodes contre les Sénateurs d'Ottawa. Puis t'as encore les Sénateurs, t'as les Jets. Tu sais, le travail est pas de regarder, tu sais, c'est les quatre premiers qui sont là dans les séries de fin de saison. Donc, c'est pas de regarder les Leafs. Et en passant, les Leafs, oui, sont bons, mais les Leafs avaient les devants 5-1 face aux Sénateurs, puis les Sénateurs ont trouvé le moyen de gagner en prolongation. Oui. Fait que tout ça pour dire, c'est qu'un soir donné, si tu te présentes pas, ben ça se peut que le club en face de toi te batte. Oui. Fait que tu sais, je suis pas sûr qu'on regarde tant les points. C'est sûr que là, veux, veux pas, tu vas être parmi les quatre premiers, mais clairement, il y a de la job à faire à chaque soir. Chaque soir, t'es obligé de mettre tes bottes de travail. Puis si le Canadien retombe dans ses habitudes des cinq derniers matchs où on se croyait peut-être un peu meilleur qu'on était, on travaillait pas, on coupait les coins ronds, ben oublie ça, ça sera juste pas le fun pour le calendrier qui s'en vient.
Ouais, mais on est-tu capable de ramener un peu le style de jeu qu'on avait en début de saison? On est-tu capable de forcer l'adversaire à ouvrir le jeu? Parce que les matchs à bas pointage des dernières semaines, les gars, on les a vus, là, c'est pas des games qui favorisent ben le Canadien.
Ben oui, ben
en même temps, je vais juste mettre un bémol là-dessus. Le Canadien a quand même battu les Leafs samedi dernier, puis les Leafs sont présentement premiers au classement général. Puis deuxième pour le pourcentage de victoire de la Ligue. T'sais, l'année dernière, là, si le Canadien avait battu, par exemple, le Lightning un samedi soir, tout le monde aurait été excité en ville. T'sais, là, c'est parce qu'ils ont bien commencé l'année que nos attentes sont très élevées. Mais je pense qu'il est encore assez tôt dans la saison, même si on est presque rendu au tiers bientôt. Il est encore assez tôt pour que le Canadien et les Leafs aient une bonne... T'sais, une bonne lutte jusqu'à la fin. Les deux équipes vont quand même s'affronter 10 fois cette saison. Là. Ça en a fait à Moses des matchs de 4 points là, 10 fois. Fait que moi, je pense que c'est pas terminé. Ceci dit, même au début de l'année, moi, j'avais mis les Leafs en avant du Canadien par un ou deux points au classement général. Puis, tu sais, clairement, on s'en va vers ça. Une lutte qui va être serrée jusqu'à la fin entre les deux clubs. Là.
Mais je veux ajouter quelque chose. Là, je t'écoute, Philo, là, t'as l'impression que... Tu nous donnes l'impression que tu veux que le Canadien redevienne cette équipe qui en marque 6, qui s'en fait marquer 4.
Ça marche
pas. Mais y a-tu un chrétien au Québec qui voudrait pas ça?
Attends, t'expliquer. Là, toi, tu vas avoir du popcorn que t'auras pas besoin d'aller acheter au cinéma, que tu vas avoir à la maison.
Oui, j'ai les mêmes plaintes que Goudzos. Where's my popcorn?
C'est ça. Là, tu veux manger du popcorn en
regardant
ce
folie. Je veux pas m'endormir dans mon popcorn.
Ben, c'est pas de ma faute.
Tu t'endormiras pas, mais il y en aura peut-être pas comme au début de la saison. C'est ça le problème.
Exactement. C'est ça l'histoire. Puis c'est ça que Claude Julien ne veut pas. On veut pas que ça soit un style de jeu ouvert comme on a vu au début de la saison. Parce qu'on est vulnérable dans ce temps-là. Fait qu'on n'a pas le choix de se préparer.
Je comprends pas ça.
C'est une longue. Ben ouais, mais.
Non, je suis d'accord que c'est ça. Je suis d'accord avec toi que c'est ça. Mais si tu me dis Claude Julien, il veut pas que ça revienne au début de l'année quand on lui en plantait 7 puis 6, tabarouette.
Non, mais tu sais, Philo, tu joues pas toutes tes games contre Tyler Myers non plus, là. À un moment donné, ça s'en sert un petit peu. Tu sais, je pense que tout ça a été faussé par les matchs contre les Canucks au début de l'année. Ben oui. Tu sais, sérieusement, ils ont vraiment pas une bonne.
Ben oui, vous avez raison.
Ils ont défense et
c'est pas un show de lutte, ça, là. C'est pas un show de lutte, c'est du hockey, là.
Tu dois me faire l'avocat du diable. Il y a du monde qui nous écoute, qui veulent un show, c'est correct. Non, mais je comprends que ça reviendra pas à ce que c'était en début de saison. Mais pour moi, je le vois, le Canadien a plus de difficultés quand les matchs sont plus serrés. Tu sais, quand on joue un style plus serré, c'est vraiment moins évident. En tout cas, de ce que je vois du Canadien et du style d'équipe qui sont, tu sais, ça. Tu peux en gagner une, perdre une.
Je suis pas sûr. Puis excuse-moi, là, puis Mick, je vais te laisser parler. Attends, mais là je suis en train de me pomper. Là. Attends une minute. Ce que je veux dire, Philo, là, c'est que je suis pas sûr qu'il n'y en aura pas des matchs à haut pointage. Ça va arriver, peut-être pas à haut pointage contre le Canadien, mais à haut pointage pour le Canadien. Ça va arriver si le Canadien commence le match comme on sait que cette équipe-là est capable de jouer, c'est-à-dire extrêmement serré. Et si tu ne donnes pas la possibilité à l'équipe adverse de croire qu'ils peuvent gagner le match. Les Sénateurs d'Ottawa, si tu leur laisses une chance de penser à ça, oublie ça, c'est fini. Ouais. Ils vont être là combatifs pendant 60 minutes. Si tu travailles comme il faut, puis tu marques au moment opportun, là, à un moment donné, tu vas voir l'autre équipe, va peut-être un peu relâcher. C'est là que ça peut ouvrir, mais sinon, ça va être des matchs serrés.
Puis si le Canadien retrouve pas son côté là, ravageur ou être capable d'assommer l'adversaire en marquant des buts, ben Ça veut dire que tu dois t'ajuster en conséquence, puis tu dois jouer un style de jeu serré, puis c'est comme ça qu'ils vont être capables d'aller chercher des victoires plus cette saison-là va avancer. Donc, je suis un petit peu tiraillé. J'aimerais ça voir aussi le Canadien marquer des buts et tout ça. Mais, tu sais, sur le long terme, puis dans les séries, ouais, ça sera pas ça de toute façon.
Non, donc, c'est pas réaliste.
C'est aussi bien d'essayer de se regrouper puis de jouer dans un concept d'équipe où est-ce qu'on est responsable défensivement, ouais, puis Price est solide, puis on s'accroche avec ça.
Ouais, puis c'est sûr qu'en série, ce sera pas ça. T'as absolument raison. Les gars, est-ce qu'on s'attend à revoir les Paul Byron et les Thomas Tatar de retour dans l'alignement partant avec le club? C'est des gars qui, dans le cas de Tatar, laissé de côté, dans le cas de Byron, placé au balotage. Qu'est-ce que vous en pensez, Alex? Tu peux commencer là-dessus.
Tatar s'entraînait aujourd'hui sur le troisième trio, puis il était aussi sur l'avantage numérique. Mm-hmm. Donc oui, ça me semble assez évident que Thomas Tatar va revenir, puis ça va probablement être Paul Byron qui va écoper pour au minimum le match de samedi. Mais tu sais, dès le début de la saison, quand même, Claude Julien avait manifesté son intention de rouler là son alignement, tu sais, de donner des pauses, des répits. Là, oui, il y a vraiment une série de matchs collés. Je pense qu'il y en a 5 cette semaine ou en 7 ou 8 jours. Donc, on risque d'avoir un certain roulement là de l'effectif. Tu sais, notamment, je pense qu'on va revenir avec les rotations de défenseurs aussi. Peut-être une rotation entre les ailiers. Je pense que la ligne de centre va rester intacte. Mais je pense qu'on va avoir de la rotation chez les alliés là, dans les prochains jours. Là.
Bon, OK. Oui, t'as raison de le mentionner. Il y a beaucoup de matchs collés. On va y revenir dans quelques instants. Mais j'ai été un peu surpris cette semaine. J'étais sur le Zoom du Canadien. Et lorsqu'on a posé la question à Drouin sur Byron, Tatar et aussi Dano, parce que Dano avait aussi été pointé du doigt par Bergevin. Jonathan Drouin a dit « Cette saison, tu dois te présenter pour jouer tous les soirs. » Je pense pas qu'il pointait ses coéquipiers du doigt, mais en même temps, il a dit « C'est parce que là, si tu fais pas l'affaire, il y a tellement de profondeur que... » C'est sûr, tu vas te retrouver à sauter ton tour.
Oui, puis il se fait marteler ça, il se fait taper ça depuis des mois, là, ce message-là. Donc, ça vaut pour lui, puis ça vaut à peu près pour tous les coéquipiers dans le vestiaire. Donc, je pense pas qu'il y avait une intention de pointer qui que ce soit dans ce message-là, mais il a quand même raison. Puis, dans la réalité, on en parlait là dans les dernières semaines, il y a des attentes élevées. Le Canadien veut faire du chemin dans les séries éliminatoires. Puis, tu sais, c'est vrai que tu peux pas prendre de soirée de congé, puis on l'a vu, Toronto, Ottawa, c'est ce genre de relâchement-là qui peut te coûter cher, puis avec une saison écourtée, chaque défaite a un poids quand même important en termes d'impact au classement. Donc, je comprends le message, je pense pas que c'était de cibler personne, mais je pense que c'est ça qu'ils veulent inculquer à l'intérieur du vestiaire, de dire, mais tout le monde doit être celui qui vit, sinon, tu vas peut-être passer ton tour le prochain match.
Drouin a pas vraiment l'habitude de pointer ses coéquipiers du doigt.
Non.
Mais Alex, Jérémy, avez-vous lu quelque chose là-dedans dans ce commentaire-là?
Ben moi, je vois pas du tout une flèche envers ses coéquipiers ou quoi que ce soit. Je vois plus le message qui est pour tout le monde, y compris lui-même. Tu sais, tantôt Michael disait, si on trouve pas le style ravageur du Canadien, tu sais, faudra avoir des matchs qui seront plus solides défensivement. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que le style ravageur du Canadien, il a été piqué dans la fesse avec une grosse seringue en mettant Tatar dans les estrades, puis en pognant l'assistant capitaine en le passant au balotage. Ouais. C'est ça l'histoire. C'est ça qui s'est passé là. On a dit au groupe qui était là, qui avait connu un certain succès en début de saison, on les a brassés pour dire ça fait 5 matchs que vous êtes pas là, que vous trichez sur la patinoire, puis c'est pas comme ça qu'on veut compétitionner. Fait qu'on a brassé tout ça, puis on dit à cette heure, là, tout le monde peut jouer, puis tout le monde peut être dans les estrades. Parce que le meilleur pointeur de l'équipe l'an passé, il était en train de manger des hot dogs contre les Leafs de Toronto.
Ça peut avoir un effet inverse aussi. Là. Tu peux avoir des gars qui, tout d'un coup, vont se mettre à jouer sur les talons parce qu'ils ont peur de faire une erreur. Je sais pas, là, mais...
Je pense pas. Honnêtement, c'est des pros. Ils savent le club qu'ils ont. Ils savent le talent qu'ils ont dans cette équipe-là. Je pense, en tout cas.
Ben oui. Bon, oui, je pense que oui. Les gars...
Ouais, puis je pense qu'ils jouent moins nerveusement sans spectateurs aussi, là, by the way. Ça me semble assez évident. Là.
Possiblement, mais tu sais, écoute, j'espère juste qu'on n'aura pas des gars, comme j'ai dit, qui vont jouer sur les talons parce qu'ils vont se faire dire, ben là, t'es mieux de pas faire une erreur parce que...
Tu peux peut-être pas faire ça avec les jeunes, par exemple. Ça, c'est important. Tu peux-tu faire ça à Kotkaniemi? Tu peux-tu faire ça à Suzuki de...
Les mettre dans les estrades?
Ben, tu sais, y aller, c'est plus
délicat,
moi, je pense.
C'est pas le style de Claude Julien, hein. Tu sais, Claude Julien, là, rarement il va prendre une décision basée sur la dernière action d'un joueur. Puis même les fans lui reprochent, là, de... T'sais, son inactivité des fois en troisième période, puis il faut que tu coupes ton banc ou mets un tel dans les estrades, t'sais, il fait rarement ça. T'sais, même il y a toujours une comment tu dirais ça? Pas une escalade, le contraire, comment on dit ça? Une d'escalade, je sais pas comment on dit ça.
Une descente.
ouais, une descente, tu sais. Donc, Tatar est passé du premier trio au troisième trio. Puis là, quand ça fonctionnait pas, il a été sorti de l'alignement. Mais c'est rare, là, que Julien va prendre directement un joueur du premier trio, de l'asseoir en deuxième période, puis de le sortir de l'alignement. C'est pas vraiment
Jean Tortorella style, là.
On va en parler tantôt. Attends.
Hey, écoute, je veux juste rajouter quelque chose. Là, tu sais, t'as demandé, est-ce qu'il y a des gars qui vont jouer ses talons? Là, ouais. Je regarde, là. Suzuki, je pense pas qu'il va jouer sur les talons. Anderson, je pense pas qu'il va jouer sur les talons. Puis Drouin, je pense pas qu'il va jouer sur les talons parce que il a dit on veut regarder les meilleurs trios de la Ligue nationale et on veut être dans ce groupe-là. Puis on veut avoir une différence à chaque fois qu'on est sur la glace. Maintenant, Gallagher, je pense pas qu'il va jouer sur les talons. Toffoli va pas jouer sur les talons. Philippe Dano, s'il avait pas voulu jouer sur les talons, il aurait peut-être dû prendre le 5 millions au début de la saison, puis on n'en parlerait plus. Ouais. Ça, c'est un. Pour le reste, là. Tout le monde est là puis tout le monde est prêt à compétitionner. Mmh. Fait qu'en quelque part, tu sais, il y a peut-être Ben Sherratt qui joue pas très bien. Le gars, c'est un vétéran. Ouais. Il va se replacer. Weber aussi, Petrie aussi. Pas ça, là, c'est, regarde, on est là, business, faut faire de la business, puis c'est aussi aux Canadiens être business.
En tout cas, on va parler de John Tortorella tout à l'heure, puis on dirait que depuis qu'on a relancé le podcast Sortie de zone, je pense qu'il n'y a pas eu une émission où on n'a pas parlé de lui. Il s'est toujours passé de quoi, soit que c'était avec Dubois, soit que c'était...
Patrick Laine.
Avec Laine, avec là, écoute, il y a eu un accrochage, là, il y a eu la retraite de Mikko Koivu, là, on va parler du dossier de Domi tout à l'heure. Bon, les gars, on a dit qu'il y a beaucoup de matchs en peu de jours, c'est vrai. Là, il y a deux matchs collés, OK? Donc, demain et dimanche. Mais ensuite de ça, il y a les 9 matchs qui vont suivre, ils sont tous décollés par 2 jours. 21, 23, 25, 27. Ensuite de ça, on saute même une autre journée de plus. On se retrouve le 2 mars, le 4 mars, le 6 mars, le 8 mars, le 10 mars. Donc, il y aura plusieurs matchs, mais il n'y aura pas vraiment beaucoup de matchs collés sur les deux prochaines semaines, à part ce week-end. Qu'est-ce que vous vous attendez de la gestion de Claude Julien et de ses assistants concernant les gardiens de but?
Ben moi, je veux voir Price jouer plus. Moi, oui. Je pense qu'on peut accélérer la cadence de Price. Puis, tu sais, sans y aller là avec du 5 contre 1, là, mais tu sais, y aller de façon plus régulière avec Price. Mais en quand même en donnant des départs importants à Jake Allen. Moi, je pense que c'est important.
Parce qu'il va avoir quand même du voyagement. Là,
ben oui, c'est ça, exactement. Mais... parce qu'il est pas au sommet de son art, Carey Price, en ce moment. Puis là, c'était correct. Jusqu'à maintenant, Jake Allen a fait le travail, puis le Canadien s'en est bien sorti. Mais pour le long terme, on a besoin de Price là, pour avoir des grosses victoires. Puis tu sais, dans les matchs qui vont être justement des guerres de tranchées, lui, il va devoir être bon. C'est avec lui que le Canadien va gagner. Là. Ce sera pas avec Jake Allen. Ouais. Même si Allen, je pense, jusqu'à maintenant, on n'a rien à lui reprocher.
Ouais.
Moi, j'aimerais ça voir Price... jouer plus.
OK. Ben, Jérémy Rainville en avait parlé il y a à peu près 2 semaines de ça. Il y avait un soir où, en tout cas, il y avait un questionnement à savoir lequel des deux. Est-ce que, Jérémy, tu partages l'opinion de Michael là-dessus?
Oui et non. Bon, ça va être facile à comprendre. Oui, parce que, veux pas, on est habitué de voir Carey Price avoir plus de matchs. Puis, je pense que ça va arriver maintenant. À quel rythme? Ça, j'en ai aucune idée. Et non, parce que ton deuxième gardien de but fait le boulot, fait que t'as besoin d'avoir des points, mais tout dépend de Price. Ça va dépendre de lui. À la priorité numéro 1, c'est lui. Et si lui donne de bonnes performances, ben peut-être qu'on y en donnera davantage. Si lui est pas encore à point, ben là, on va peut-être voir plus Jake Allen être utilisé. Par contre, Alexandre parlait de cette pause qu'il y a eu cette semaine. A dit, on a travaillé sur l'avantage numérique, on a travaillé sur le petit détail. Je sais pas, vous avez vu les images, Carey Price avec Stephen Waite.
Oui.
Pratique les jambières, déplacement. Tu sais, qu'on se dit être plus carré. Donc, je sais pas, vous avez vu, il y avait 2 bloqueurs dans les mains avec un bâton qui tenait un petit bâton. Ça, c'est pour garder les coudes collés sur ton corps quand tu fais du déplacement. On se disait qu'il était pas assez square, carré devant son filet.
Oui, oui.
C'était ça qu'on pratiquait, là. On a fait ça durant cette semaine de repos-là, d'entraînement. Ça, pour moi, c'est un excellent signe. C'est parce qu'on revient à la base, on pratique les choses de base et c'est ça qu'on veut voir dans le match. Je sais que Price peut être spectaculaire par moment, mais je veux pas voir Price le gant par-dessus la tête. Non, je veux le voir carré. Si on voit ça de Carey Price, j'ai l'impression qu'on va l'en voir davantage, puis évidemment, on va y en donner un petit peu plus, mais sinon, je pense qu'on va alterner.
Alex, y a-tu une chance qu'on se retrouve au bout de cette séquence-là d'à peu près 10 matchs où ils vont en avoir joué 5 chacun?
Non. Moi, je pense que dans les 7 prochains, Price devrait garder les buts normalement 5 fois. Je pense qu'il va être dans les buts contre les Maple Leafs, là, dans toute logique.
Je pense que oui.
C'est comme une semaine qu'il ne joue pas, puis c'est le gros club de la Ligue. Tu vas avoir ton gardien numéro un. Le lendemain contre les Sénateurs, ça devrait normalement être Allen, à mon avis.
Oui.
Mais après ça, le Canadien rejoue contre les Sénateurs, qui est quand même une équipe un petit peu plus faible. Je pense que là, on devrait voir Price.
Oui.
Puis après ça, il y a deux matchs, mais les matchs sont un petit peu plus séparés. Après, jeudi, samedi, mardi. Donc, Price devrait garder les buts au moins deux fois dans cette séquence-là. Donc, je pense que dans les sept prochains, on devrait le voir Price cinq fois.
OK, mettons dans les dix prochains, là, on en donne combien à Price? Six? À peu près?
Ah, plus que ça, là.
Six ou sept?
Au moins sept.
OK, intéressant. Bon, les gars, le nom de Tyler Toffoli commence à circuler pour ce qui est des Olympiques dans un an. Je sais pas ce que vous en pensez, pour Team Canada, bien sûr. C'est sûr que ce n'est qu'un un petit échantillon, là. Ça fait à peu près un mois, un petit peu plus qu'un mois que la saison a commencé. Il va très bien. C'est pas un nom qu'on a l'habitude de voir. Ben là, c'est sûr que ça fait un bout de temps que l'équipe Canada a pas joué ensemble et tout ça. Mais est-ce que c'est réaliste de penser que Tyler Toffoli sera là, sera considéré et est-ce qu'il pourrait être un membre important d'équipe Canada?
Je sais pas, mais écoute, il y a pas beaucoup. Tu parles de sa feuille de route, tu sais, équipe canadienne, tout ça. C'est un gars qui a jamais joué championnat du monde junior. Il y a pas une grosse feuille de route du point de vue international puis tout ça. Mais tu dis, il joue du gros hockey. Puis ça, il y a un aspect momentum. Tu sais, on a dit que bon, l'équipe serait jeune, l'équipe serait dynamique. Moi, je pense que tu sais, à 28 ans, 28 ans, moi je pensais ça, s'inscrit dans cette lignée là. Alors, j'ai hâte de voir. Moi, il y a assurément un aspect momentum à ça. Mais est-ce que sa feuille de route peut comme faire hésiter. Je sais qu'à Hockey Canada, ils aiment beaucoup ça, là, les imprégnés de Team Canada, là, mais ouais. ça sera à suivre. Je suis pas certain, mais bref, qu'est-ce que vous en pensez, les gars?
Ben, écoute, ça va être difficile. Là. Il a joué une seule fois pour l'équipe Canada, puis c'était au championnat du monde il y a à peu près 6-7 ans. Mm. C'est pas quelqu'un, justement, qui est dans les cadres. Hein. Comme non, dit Michael, ils aiment beaucoup revenir avec les mêmes joueurs. Puis, si on regarde, mettons... juste sur les ailes, parce qu'évidemment, il jouera pas au centre, là, tu sais, juste sur les ailes, tu sais, Braden Point, Mitch Marner, Scheifele, même qui est un centre, McKinnon, tu sais, qui vont être déplacés vers l'aile, Tavares, il y a tellement de talent.
Ouais.
Honnêtement, ça va prendre tout un concours de circonstances pour qu'il soit une équipe. Écoutez, même à l'heure actuelle, Mathieu Barzal, c'est pas clair s'il va faire l'équipe ou pas, puis à mon avis, c'est un meilleur joueur que Tyler.
Ben oui.
Mais j'ai l'impression que c'était plus lui. Même là, Toffoli, t'es comme un peu surpris aussi de ça. Bon, ben, super. Mais tu sais, quand Michael dit c'est une question de momentum, c'est la même chose pour Doug Armstrong. Tu sais, quand lui voit ça, il dit, ben oui, il n'a pas le choix de dire, regarde, le gars, il en a quoi jusqu'à présent, 9 buts. Il était spectaculaire face aux Canucks. Fait que là, t'as pas le choix de dire, ben regarde, on a un œil dessus maintenant, à dire qu'il va faire partie d'équipe Canada. Je pense qu'on va laisser aller le temps. On va voir un peu comment Tyler se débrouille dans la Ligue nationale avant de penser aux Jeux olympiques.
Écoute, on a encore une année devant nous. Puis à chaque fois qu'on arrive aux Olympiques, il y a toujours une ou deux surprises. Des gars qui... dans le moment, sont hot, puis ils se disent, lui, c'est un incontournable, on va le prendre, même si c'est pas un gars qu'on voyait dans notre mire ou quoi que ce soit, il y en a à chaque fois. Avant de compléter la portion de l'émission sur le Canadien, Michael, j'aimerais que tu nous parles de ton nouveau livre. Mm-hmm. On s'en est parlé un petit peu à l'extérieur des ondes tout à l'heure avant de rentrer dans l'émission, mais tu as écrit un livre sur la vie de Georges Vézina, un ancien gardien, bien sûr, du Canadien de Montréal du début du 20e siècle et qui a fait beaucoup d'autres choses à part être gardien de hockey pour le Canadien de Montréal. Mais parle-nous un petit peu de ton expérience, le travail que tu as mis là-dedans, la recherche. Vas-y, je te laisse
aller. Ben, y a un aspect très journalistique à ça parce que, tu sais, je fouillais une période dont on ne se souvient plus beaucoup les tenants et aboutissants par rapport à l'évolution du hockey parce que ça a progressé très rapidement entre la création du Canadien en 1909 puis je dirais les années 30, 40, les grosses années de conquête de Coupe Stanley. Les débuts ont été tough. Ça n'a pas été facile pour le Canadien. Puis je trouvais que Vézina tenait ça un petit peu à bout de bras. Lorsque je lisais, on soulignait souvent l'importance de sa contribution dans les relatifs succès du Canadien au début. Puis c'est un personnage un peu mythique. Ce qu'on lit sur Internet, plus on fouille, plus on se rend compte qu'il y a toutes sortes de contradictions par rapport à lui. Tu lis sur Internet qu'il mesurait 5 pieds 6 alors que c'est un gardien de 6 pieds. On le voit sur les photos de l'équipe. Tout le temps le plus grand de l'équipe.
J'ai toujours eu l'image qui était plus petit.
Ouais, non, c'est ça. Puis je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont restés avec ça. Après ça, bon, les rumeurs sur le nombre d'enfants qu'il y a eu, ça a monté jusqu'à 24. C'était devenu quasiment un personnage un peu mythique. Tu sais, des histoires un peu. Il est décédé très jeune, 39 ans. Donc, sa mort précoce, ça a fait en sorte que il a été un petit peu oublié dans l'histoire du Canadien. Puis, tu sais, c'est pas un blâme envers la direction, c'est juste que c'est une période de notre histoire dont on connaît moins un petit peu les grands moments, tu sais, l'impact de la grippe espagnole, l'impact de la Première Guerre mondiale. Mmh. Puis, en rebâtissant tout ça, il fallait que je me lance dans les archives. C'était vraiment ça, lire les journaux sur microfilm, les actes de notaire et tout ça. Donc, ça a été un beau travail de recherche. Puis après ça, ben c'était de synthétiser ça puis de rendre ça intéressant. Parce que, tu sais, on a notre regard de 2021, mais là, je parle d'un athlète qui est décédé il y a près de 100 ans. Donc, c'était de remettre ça au goût du jour, mais en respectant vraiment les faits de cette époque-là, puis d'offrir aux gens un peu un portrait de c'était quoi le Canadien de Montréal il y a 100 ans, il y a 110 ans. Puis voilà, c'est la démarche d'une quinzaine d'années de réflexion, de lecture et tout ça.
Ben, félicitations. Je sais, Alex, que tu as écrit un texte là-dessus ce matin. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus.
J'ai lu le livre. Puis déjà? Je recommande fortement, honnêtement. C'est une très bonne lecture. Je recommande aux gens qui aiment le hockey, mais pas juste aux gens qui aiment le hockey. C'est comme dit Michael, c'est une période dont on parle très peu. Tu sais, à l'école, les années 10 ou les années 20, on va toujours l'enseigner d'un point de vue international, donc la guerre mondiale, les grands conflits, la Yougoslavie, puis blablabla. Mais tu sais, on connaît très peu notre histoire. Presque personne connaît même les premiers ministres de cette époque-là, là, Lomar Gouin, puis Louis-Alexandre Tachereau. Tu sais, je trouve que la grande force, en fait, du livre de Michael, c'est de mettre Georges Vézina dans le contexte de l'époque. Puis, tu sais, c'est de la vie normale, là. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup d'enfants. À l'époque, le taux de mortalité infantile était très élevé. Puis c'est vraiment très intéressant, en fait, pour tout le monde, pas juste pour les amateurs de hockey. Puis moi, c'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié là, dans le travail de recherche méticuleux de Michael.
C'est sûr qu'on va lire ça.
Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu me permets une question, Jérémy, à Michael?
Ben oui.
Moi, je regarde si aujourd'hui on accorde le trophée Vézina pour le meilleur gardien de but, c'est en lien avec le personnage, j'en suis convaincu. Oui. On se trompe pas quand on dit ça. Parfait. Je comprends pas comment ça se fait que le Canadien n'a pas souligné ça, le fait qu'on, dans la Ligue nationale, on décerne au meilleur gardien de but le trophée Vézina, et chez le Canadien, on n'a pas retiré son chandail, on n'a pas immortalisé son nom, mais la Ligue nationale le souligne avec le trophée du meilleur gardien de but.
Ouais, exactement. Puis le trophée à la base a été offert par le Canadien à la Ligue nationale. Puis on a proposé l'idée de dire remettons le trophée du meilleur gardien en l'honneur de Georges Vézina. Puis je pense que c'est lié. C'est pas une erreur historique. Je pense que c'est un oubli, sincèrement, parce que dans les 20-30 premières années des Canadiens, la culture du numéro, les retraits de chandail, il y en avait pas. Tu sais, c'était pas commun. On y a fait des super belles cérémonies. On y a fait un match bénéfique. Après son décès, le Canadien a été associé aussi à ses deux fils, Jean-Jules Vézina, Marcel Vézina. Ils allaient faire leur tour au Forum de Montréal dans les années 40, dans les années 50. Puis c'est comme si qu'après ça, ça s'est coupé. Il n'y a pas eu de suivi, il n'y a rien eu d'autre.
Il y a des oubliés chez le Canadien. Il y a des oubliés, puis je pense que Georges Vézina en est un. Puis écoute, je veux dire, il n'y a rien qui empêche le Canadien de revoir encore une fois. Comme j'ai dit, il y en a des gars qu'on a oubliés. Puis c'est des cérémonies que les gens apprécient beaucoup. Puis ça nous ramène encore une fois le passé. Ça nous attache encore au passé de l'équipe. Donc, écoute, en espérant que ce livre-là puisse faire réfléchir des gens.
Est-ce qu'on l'a placé sur l'anneau d'honneur, Vézina?
Oui.
Il est sur l'anneau d'honneur.
Puis dans la cérémonie du centième, dans les meilleurs gardiens, je pense qu'il y avait 15 gardiens, il y avait 13 des 15 gardiens dont les chandails avaient été retirés aux quatre coins de la Ligue nationale. Vézina était l'un des deux avec Bill Dernan, un autre des Canadiens. Donc, en tout cas, sincèrement, je regarde ces petits-enfants maintenant qui ont 75, 80, 85 ans. Ils aimeraient tous ça voir ça de leur vivant, une cérémonie retirant le chandail de leur grand-père. Surtout que le numéro 1 de Jacques Plante est déjà retiré, alors ça ne changerait rien dans les numéros du Canadien. Ça ferait juste donc souligner sa belle conclusion.
Excellent. Ben, félicitations pour ce beau livre et puis on va tous aller lire ça assurément. On fait une petite pause. On va parler de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour, les gars, et on vient de parler d'une épopée très lointaine. Mais là, on va parler de ce qui se passe dans le hockey moderne, étant donné que cette semaine, Connor McDavid a atteint la barre des 500 points dans la Ligue nationale de hockey. Déjà, c'est assez surprenant. Quand j'ai vu ça, j'avais pas réalisé qu'il était déjà rendu là. 369 matchs, donc à égalité avec Sidney Crosby. Ce qui nous porte à justement parler de ces deux grands joueurs de hockey, parce que Sidney Crosby, ça s'adonne que demain soir, il va jouer son millième match matchs dans la Ligue nationale. Si vous voulez bien, on va écouter son agent Pat Brisson sur les exploits de Sidney Crosby et sa carrière.
C'est un grand travaillant, c'est un grand talentueux, mais c'est un travaillant, c'est un gars qui est constant, puis c'est un gars qui, écoute, les joueurs qui vont jouer à Pittsburgh, qui arrivent là, qui jouent dans l'équipe, des gars qui arrivent d'une autre équipe, des fois ils vont dire la première pratique, la deuxième pratique, t'as la roche. Crosby, il pratique comme un gars de quatrième ligne, je veux dire, il est là, pareil, tu veux dire, il est dans le plancher, pareil, comme s'il est... C'était sa première pratique.
Et ça, c'était Pat Brisson, l'agent de Sidney Crosby, qui était en entrevue avec Mario Langlois hier. Les gars, je sais pas si vous voulez y aller avec un commentaire sur Connor McDavid ou Sidney Crosby, mais moi, ce que je retiens de Sidney Crosby avec 1000 matchs, c'est que il y a eu un moment donné où on s'est posé des sérieuses questions sur l'avenir de sa carrière, notamment à cause des commotions cérébrales. Puis d'atteindre le plateau des 1000 matchs, c'est vraiment quelque chose. Puis Sidney a encore beaucoup de hockey à offrir, mais c'est tout un exploit pour un gars qui a traversé des moments, là. Écoute, je pense qu'il y a eu 3 saisons où il n'a pas joué 50 matchs. Exact. Je parle pas des années là où il y a eu des lock-out puis tout ça, là. C'est des années où, malheureusement, il n'y avait pas la santé pour le faire.
Non, là. C'est ça. Puis Pat Brisson, dans cette entrevue-là, qui était excellente, soit dit en passant, soulignait justement ça. Le fait que son retour, c'est l'un des plus beaux moments de cette grande carrière-là. Donc, beaucoup de résilience, puis être, tu sais, tout le temps être au sommet, là, c'est pas évident, puis lui a réussi à l'être. Alors, non, chapeau, ça nous fait tous vieillir, par exemple, mais toujours aussi impressionnant.
Les gars, Alex, Jérémy, comment comparer Connor McDavid et ses 500 points en 369 matchs avec ceux de Crosby? Est-ce qu'il y en a un des deux qui a plus de mérite que l'autre pour une raison particulière? Et surtout, est-ce qu'il y a une façon de les comparer aussi aux plus grands, là, tu sais, aux Wayne Gretzky qui l'ont fait en 234 matchs, Mario Lemieux 287, etc.
Ben, moi, je vais vous dire une chose, c'est que je pense qu'on doit regarder les points, les statistiques pour ce qu'elles sont. Moi, j'enlève rien à Connor McDavid, j'enlève absolument rien à Sidney Crosby, mais dans les deux cas, c'est pas le même genre de joueur, tu sais. Connor McDavid, c'est un gars qui est exceptionnellement, je vais le dire, il est doué.
Il est plus doué que toi pour dire le mot exceptionnellement, c'est ça.
Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, mais il est vraiment doué, puis tu sais, c'est unique. Mais Crosby, c'est plus grand que juste être doué. C'est son attitude de travail, c'est ce qui amène sur la glace, c'est la combativité dans les coins, c'est... Tandis que McDavid, c'est le coup de patin, c'est le lancer, c'est la vision, il est très, très bon. Mais Crosby fait gagner son club aussi, par contre. Mm. Ce que McDavid peut pas faire... Moi, j'ai l'impression, je vois McDavid, puis là, je vais pas partir une chicane, là. Tu sais, je vois McDavid, puis je vois James Harden au basket. Le gars qui va mettre 40 points dans un match... Pas pour l'attitude,
Mais c'est pas quand... bon ça, c'est pas bon.
Ben oui, mais tu sais, quand il met 40 points, mais c'est parce que personne d'autre qui touche au ballon, parce que le gars, c'est tout le temps lui qui l'a dans les mains.
Comme Marcel Dion dans le temps?
Ben un peu, mais Connor McDavid, il est tout le temps avec la rondelle, on fait juste lui donner à lui, ah ouais, go, patine. Tu sais, je veux dire, la journée qu'il se blesse un genou qui est moins rapide, qu'est-ce qu'il fait? Crosby peut jouer différemment, il est bon défensivement, il est bon offensivement, il joue physiquement. Je sais pas, pour moi, c'est un comparatif qui peut sembler boiteux, là, mais...
Je pense que tant et aussi longtemps que Connor gagnera pas la coupe, ça va être difficile de le mettre dans la même catégorie que Crosby. Ouais.
Moi, je trouve que Connor McDavid est un joueur plus doué que Sidney Crosby.
Oui.
Tu sais, Crosby, là, dans toute sa carrière, oui, il a eu des blessures et tout ça, mais il a gagné 2 fois le championnat des marqueurs. McDavid a déjà deux championnats des marqueurs, puis il mène encore cette année, tu sais. Puis il est pas mal plus jeune. Et quand on regarde la moyenne de points par match aussi, McDavid, sa moyenne, elle est supérieure à celle de Crosby. Moi, ce qui distingue un petit peu Crosby, c'est, oui, son leadership, le fait qu'il a gagné des coupes Stanley, alors que pour l'instant, McDavid, son palmarès, ce chapitre-là est plutôt nul. Mais c'est aussi les performances sur la scène internationale. Sidney Crosby, c'est un petit peu capitaine Canada, là. Puis il a marqué les buts quand ça comptait. T'sais, son but à Vancouver, c'est quand même un des plus grands buts de l'histoire du hockey. Je pense que pour l'instant...
Ouais.
Oui, exactement. Je pense que pour l'instant, Crosby occupe une plus grande place dans l'histoire, dans l'imaginaire. Sa légende est plus grande que celle de McDavid. Mais je pense qu'au simple point de vue talent de hockey, McDavid, pour moi, est plus spectaculaire là, que Crosby.
Ben, dans le fond, c'est un peu Gretzky le mieux. C'est Crosby, c'est un peu Gretzky. Puis, nonobstant les coupes cette année, parce que les deux ont gagné, là. Puis McDavid, c'est peut-être un peu le mieux. T'sais, plus flashy, plus marqueur de but, plus capable de traverser la patinoire avec la rondelle. Pas exactement, là, mais t'sais, si on avait à faire...
C'est difficile à comparer, honnêtement.
Très difficile.
C'est tellement difficile.
Très difficile.
Hey, Mario le mieux, là, pour moi... c'est drôle qu'on abaque sa conversation, là. Mais Mario Lemieux, là, si ce gars-là est pas blessé, là, puis ce gars-là ne se fait pas bûcher dessus à coups de bâton à tous les jours, là, écoute, c'est une machine, ce gars-là.
Ouais,
gros, grand, fort, bon, tout. Il y a tout. Ouais. OK, défensivement, des fois, un peu paresseux. Mais vraiment, ça n'a aucun bon sens, Lemieux. Là.
Bon, les gars, il faut parler un petit peu de Max Domi, parce que là, on est dans la chronique John Tortorella de l'émission. Là, on est rendu à ce segment-là. Et bon, je ne sais pas si vous avez vu passer ça cette semaine, mais Max Domi a été rétrogradé sur le quatrième trio à Columbus. Tu sais, on peut discuter du départ de Domi avec le fait qu'Anderson va bien quand même à Montréal aussi. Là, Tortorella a qualifié le jeu de Domi, je vais le dire en anglais, « a concern ». Donc, c'est inquiétant. C'est une inquiétude pour lui. On a déjà vu que Domi, l'année passée, une saison un petit peu plus difficile que ce qu'il avait connu dans les années précédentes avec le Canadien. On dirait que c'est un joueur qui est sur une petite pente descendante. Je sais pas ce que vous en pensez. On a tous été un peu déçus de le voir. Ben, tous un peu déçus. Je veux dire, on attendait de belles et de grandes choses pour Max Domi avec le Canadien pour plusieurs années. Malheureusement, là, ça a été coupé à court. Mais je trace comme un petit lien avec entre Domi et Galchenyuk. Est-ce que je me trompe? C'est quand même sa troisième équipe, là, en l'espace de quelques années.
Oh, ben, je trouve que Max Domi est quand même meilleur qu'Alex Galchenyuk, là. Puis je pense que c'est pas tout à fait le même genre de problème hors glace non plus entre les deux. Mais tu sais, Max Domi, c'est pas quelqu'un qui est facile, là. Je pense que tous les journalistes qui sont sur la couverture du Canadien.
Ben, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas tout le monde qui était déçu de le voir partir.
Non, vraiment pas, là. C'est plutôt quelqu'un qui est difficile d'approche, pour être poli.
Ouais.
Mais tu sais, c'est quelqu'un qui joue pour lui aussi beaucoup, hein. C'est pas le plus grand team player, là, de la Ligue nationale, pour prendre l'angliciste. Tu sais, cette année, ce qui est vraiment inquiétant, en fait, c'est qu'il va à peu près pas au filet. Écoutez, j'ai regardé sa charte des tirs, là. Il y a un tir dans l'enclave dans toute la saison.
Wow.
C'est ça. Sinon, il se tient beaucoup à côté du filet, mais tu sais, un tir pour un gars de son, tu sais, à 55, là, pour un gars de son calibre, ça n'a pas de bon sens, pour vrai. Tu sais, là-dessus, Tortorella, je pense pas que ce soit celui qui est abdomé nécessairement, là. Je pense qu'il faut que Max Domi s'aide lui-même, là.
Puis ce que tu dis est intéressant, Alex, parce que, tu sais, on dirait que c'est ce qu'on est en train de voir là, c'est ce qu'on a beaucoup vu de Max Domi l'année passée, après s'être emballé, après la belle saison qu'il avait eue, tout
exact.
Ça. Puis tu sais, je regardais John Tortorella qui disait, ben là, faut qu'il bouge ses jambes, faut qu'il soit impliqué, puis tout ça. C'est toutes des affaires qu'on a soulignées, ça, l'année passée de Max Domi, puis on était là, voyons, comment ça, pourquoi c'est l'étincelle là, de la saison précédente revient pas? Alors, faudrait pas que ça devienne un joueur d'une seule grande saison. Puis, est-ce que c'est un joueur vraiment de 40-50 points, ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant? Ou il est capable d'aller la chercher, là, le 65, 70, 75 points?
Là, à 5,3 millions, là, il faut qu'il se réveille. Là.
Ben, c'est ça. Mais faut qu'il donne ce genre de hockey-là avec ce niveau de salaire-là. Mais l'implication de l'année passée... Moi, j'ai tellement été déçu par lui l'année passée. Là. Sincèrement, s'il me l'a pas laissé une bonne impression. Puis là, il y a la chance d'avoir un nouveau départ avec un entraîneur qui tolère pas trop les demi-mesures. Si ça fait pas là, après ça, ben là...
Ben, c'est ça l'affaire. Parce que là, il reste une année de contrat. C'est pas impossible qu'il va, lui, encore une fois, va devoir changer d'adresse. On verra. Mais, tu sais, je suis pas en train de dire que Max Domi, ça va être un flop, mais c'est inquiétant quand même. Là. C'est inquiétant la direction dans laquelle il s'en va.
À moins que je me trompe, il a marqué dans le match hier. Il a marqué un but hier. Fait que donc, il a répliqué. T'es
trois,
sur le quatrième.
Trois buts, quatre passes à date en 18 matchs.
Ouais, mais il a marqué après s'être fait placer sur le quatrième trio, il a marqué un but. Fait que donc, là, c'est une question de confiance. Ce gars-là, clairement, c'est pas juste une question de talent. Puis, tu sais, tout le monde a peut-être mis en doute à un moment donné sa grosseur, son gabarit. Il est capable de compétitionner dans la Ligue nationale. Il y a un coup de patin exceptionnel. Il y a un bon lancer du poignet. C'est clairement une question d'attitude. Puis, est-ce que John Tortorella arrivera à casser son caractère? Je ne sais pas. Mais si lui veut rester dans la Ligue nationale, il va falloir qu'il s'adapte à ce que la Ligue nationale veut d'un joueur de hockey. C'est-à-dire, c'est pas une histoire individuelle, mais c'est un jeu collectif. Puis, c'est pas juste l'histoire d'une vedette. C'est l'histoire de plein de joueurs. Mmh. Fait que donc, faut que Domi comprenne que malgré le fait qu'il a besoin d'amour, parce que ça a l'air d'un gars qui a besoin d'amour, besoin d'attention, puis faut qu'il soit fin, gentil, que le monde l'aime, puis là, il sent bien, puis là, il produit. Mais malgré le fait qu'il a besoin d'amour, il va falloir qu'il soit capable d'en donner peut-être davantage qu'il espère en recevoir. Fait que faut t'en donner. Donne-en plus, puis l'amour va venir.
Ouais.
C'est ça qui va arriver avec Columbus.
Si je pense pas que les Blue Jackets sont gagnants avec un Max Domi sur le quatrième trio, on s'entend.
C'est une
là,
mauvaise idée d'avoir fait ça, Columbus. Je comprends pas. Ça n'a aucun bon sens.
sais, je veux dire, c'est pas là que tu vas aller chercher le meilleur de Max Domi, mais bon, on connaît les façons de procéder de John Tortorella. On a entendu Pat Brisson tout à l'heure, on va le réécouter si vous le voulez bien, sur un sujet qui a quand même fait jaser depuis quelques semaines, étant donné qu'on pense remettre le repêchage à l'année prochaine. On va écouter Pat Brisson, l'agent de joueur, pour que lui nous éclaire sur qu'est-ce que lui y voit pour les prochains repêchages de la Ligue nationale et est-ce que ce serait une bonne idée de finalement faire passer l'âge légal pour la sélection des joueurs à 19 ans. On l'écoute.
Combien que de 18 ans, de joueurs de 18 ans qui sont prêts à jouer dans la Ligue nationale à 18 ans? Tu as eu Sidney Crosby, tu as peut-être eu McDavid. Je parle des 18 ans, là, pas les late birthdays. Là, les Patrick Kane, c'est des late birthdays. Les Matthews, etc. John Tavares. Mais on parle de 18 ans. C'est vite à 18 ans. Moi, j'aimerais mieux voir un draft à 19 ans. Moi, personnellement, ce qu'on va voir cette année, selon mes prédictions, on ne verra pas un repêchage cet été, je pense pas. On va peut-être voir le draft des 2003, ben non, les late 2002, comme on parle. Moi, je vois ça en décembre ou janvier pour que les équipes aient plus de temps d'évaluer les joueurs de cette année, parce que t'as plusieurs joueurs qui jouent pas. T'as des joueurs qui ont joué 20 games, d'autres 15, il y en a d'autres qui vont jouer un petit peu plus, ou là qui joueront pas pantoute. Ah. C'est pas un, tu sais, faut faire attention.
Donc, tu penses pas à un week-end de deux repêchages, deux années. Donc, un plus, très, très tôt en 2022, puis l'autre un petit peu, probablement au printemps.
Oui, oui. Okay. Non, ça veut dire, je verrais le draft des 2003, là,
ouais,
qui est supposé d'arriver en juillet, lui, je le vois arriver en décembre ou janvier.
Okay.
Je ne le vois pas avant ça.
Okay.
Là, le draft des 2004 puis les ligues 2003, ça serait en juin, comme d'habitude.
Okay.
Ça,
okay.
On viendrait un draft de 18 ans, là. Mais là, moi, ce que je vois, qu'il y a une opportunité de la Ligue nationale et de l'Association des joueurs, ce que je conseille, ce que j'aimerais te voir, c'est qu'on repousse le draft de 2003, les 2002, pour l'été 2022, puis qu'on ait un repêchage de joueurs de 19 ans, non 18 ans, peut-être à l'exception des trois premiers.
Bon, est-ce que quelqu'un probablement qui s'oppose au fait qu'on passe, on pourrait passer à 19 ans pour le repêchage? Ça, c'est la première question. Est-ce quelqu'un ici qui s'oppose à ça?
Ben non.
Bon, OK, parfait. Est-ce qu'on devrait profiter de cette fenêtre présentement où les repêchages vont être décalés, on le sait, vous venez de l'entendre, Pat Brisson, pour justement faire cet ajustement-là maintenant, pour qu'à partir du repêchage suivant, ben on puisse tout le monde s'enligner pour que ce soit 19 ans. Est-ce que pour vous, ça fait du sens?
Ben, il y a une opportunité, c'est sûr. Puis moi, je pense qu'il devrait saisir cette opportunité-là. Puis tu sais, parce que là, tu veux pas commencer à jouer au yo-yo. Et là, on fait ça là, puis après ça, là, on saute une année. Puis moi, je pense qu'ils ont une opportunité parfaite. En plus, les joueurs, ils souffrent en ce moment d'avoir joué pas assez de hockey, comme on exact. Dit. Alors, moi, je pense, s'ils ont ça sur un plateau d'argent, puis j'aime voir les agents prendre l'initiative dans ce débat. Parce que faut pas oublier qu'il y a plusieurs agents qui n'ont pas vraiment d'intérêt à ce que voir leur client être repêché rapidement. Non, là, plus tu tires ça, plus tu as des chances que ton gars qui est listé peut-être deuxième overall glisse 3 puis glisse 4 ou monte pas 1. Ouais. Alors moi, j'aime ça voir Pat Brisson faire ce débat-là. Puis on est rendu, et que ça fait des années qu'on entend ça dans les arénas. Je suis convaincu que vous tous, messieurs, vous entendez les mêmes choses que moi. Moi, je pense qu'il faut foncer là-dedans.
Ben, écoutez, on est dans une pandémie, puis il y a des fenêtres qui s'ouvrent pareil, des fenêtres d'opportunité. Je pense qu'il faut la saisir. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez.
Ben, c'est parce qu'il n'y a aucune logique, en fait, à ce que ça reste à 18 ans. Il y en a presque pas de joueurs de 18 ans dans la Ligue. Il y en a deux, peut-être, par année. Un ouais. ou deux par ouais. saison. Ouais. Donc, à qui ça profite, à l'agent de ce joueur-là, puis à ce joueur-là. Donc, peut-être.
Puis même là.
Peut-être que ça profite à deux personnes au total, ouais. alors ouais. que les clubs juniors, après ça, vivent en limbo. Est-ce qu'on l'échange avant son année 18 mm-hmm. ans ou pas? C'est toujours compliqué. Donc, le junior majeur en profiterait. Ça va même aller jusqu'au midget 3, en fait, parce que là, les oui. gens de junior majeur pourraient conserver certains joueurs plus longtemps. Donc, ça permettrait à des joueurs de se développer plus longtemps aussi dans le midget 3.
D'accord.
Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. En fait, je comprends même pas qui encore aujourd'hui défend le repêchage à 18 ans. C'est Marc Bergevin. Je pense pas qu'il soit pour le repêchage à 18 ans.
Non.
Les clubs, au contraire, préféreraient avoir les joueurs plus tard pour pouvoir les évaluer, peut-être même plus longtemps avant de pouvoir leur offrir un contrat.
Mais le problème, c'est que là, il aurait fallu que tu sautes un draft ou à peu près, là, tu sais, pour régler ce problème-là. Ah oui,
là, tu l'as. Ça a permis à certaines équipes de jouer avec la masse salariale, par exemple. Dans les dernières années, là, tu sais, il y avait des équipes là, qui profitaient de ça pour comme aller chercher, à économiser de l'argent là avec des joueurs à bas salaire, même si malheureusement, ils n'étaient pas prêts à faire le saut. Dans la Ligue nationale,
c'est ça l'histoire. Il est là le point, c'est que les organisations vont chercher des jeunes comme ça parce que ça leur permet d'avoir un chandail à bas prix. Avoir un gars qui ont repêché à bas prix pendant au moins 3 ans et par la suite, avant d'atteindre l'autonomie complète, là, t'as du temps, là. Ça veut dire que si ton gars, il est bon, tu peux essayer de le négocier. C'est un joueur autonome avec restriction. Fait que plus de bonheur tu le repêches, plus de bonheur tu le fais signer, plus longtemps que tu l'as à bas prix. Fait que donc, eux, ce qu'ils disent, c'est que si c'est plus tard, non, mais attendez, si c'est plus tard, t'as 19, le gars est peut-être plus fort physiquement, des meilleurs chiffres, ça va mieux au départ. Fait que là, t'es capable peut-être d'aller chercher plus d'argent dans un contrat bridge, là, dans un contrat pont avant ton autonomie complète. Et là, pour les équipes, ça peut être moins payant. Et un autre point, puis Alexandre, je te laisse parler après. Un autre point. Moi, ce que je trouve dommage dans cette pandémie-là avec le repêchage, c'est que j'ai l'impression que on vient de découvrir quelques problèmes de la machine à saucisses. Moi, j'appelle ça la machine à saucisses. C'est toute cette ligne de production de jeunes qui s'en vont dans la Ligue nationale de hockey. À partir du midget 3, du junior majeur, puis après, tu t'en vas dans la Ligue nationale. Je comprends que les dépisteurs, présentement, puis les organisations disent « Hey, les gars, ils ont pas joué beaucoup. » Ça fait à peu près 8 ans qu'ils scoutent ces gars-là. Ils les connaissent connaissent de A
mais,
à Z.
Mais c'est-tu quoi? 6 mois, c'est correct. Moi, je pense que 6 mois, c'est correct.
Ils les connaissent de A à Z, mais là, oup, le doute s'installe. Hey, attends une minute, y aurais-tu changé, toi, à l'intérieur d'un 3, 4 mois, 5 mois? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, mais s'il vous plaît, on se calme un peu le pompon. Ils connaissent ces gars-là depuis le Pee-wee, depuis le bam-tam.
Tu sais, Jérémy, que les organisations ne veulent pas mal paraître. Et déjà, ils se trompent quand ils ont toute l'information au bout de leurs doigts. Là, écoute, je pense que la marge d'erreur est encore plus grande, j'ai l'impression. Mais moi, je trouve intéressant ce qu'il dit, c'est-à-dire pas mettre les 2 séances de repêchage l'été prochain avec t'sais, 2 séances en 2 fins de semaine consécutives, mais plutôt étirer ça de 6 mois. Moi, je pense que ça fait du sens. C'est suffisant, surtout si les gars commencent à jouer bientôt, éventuellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est ça.
Ouais, oui, t'sais, mais moi, la seule affaire, c'est que je trouve que c'est à l'avantage des équipes, en fait, que le repêchage soit plus tard. Parce que si on regarde les règles actuelles, donc plutôt que d'offrir le contrat d'entrée à 18 ans, tu l'offres à 19 ans. Donc tu retiens le joueur 1 an de plus avant qu'il atteigne l'autonomie. Tu sais, ça c'est quand même intéressant pour les équipes. Ça veut dire qu'ils garderaient le joueur 1 an de plus vers leurs 25-26 ans. Là. C'est pour ça que les agents, puis c'est pour ça en fait que je suis plutôt surpris de voir voir le cas de Pat Brisson là-dessus parce que ça peut avantager les joueurs d'obtenir leur autonomie 1 an plus jeune en ayant un contrat d'entrée à 18.
Ouais, mais ils repêchent à 18, mais ils ont 4 ans pour les signer quand ils sont aux États-Unis ou qu'ils sont pas dans les Canadiennes. Fait que là, ça ils reportent jusqu'à 22 avant de les signer. Fait que là, les gars, ils ont le temps de maturer, puis eux autres sont capables d'arriver puis d'être capables d'avoir ce joueur-là à rabais pendant quelques années durant que c'est bon. Là, 19, ça change un peu la donne. C'est moins facile pour eux autres d'avoir accès à ça. Mais bref,
et j'ai hâte de voir la contrepartie parce que dans l'entrevue un petit peu plus loin, Pat Brisson dit sans doute que ce qui va avoir à être ajouté par rapport à la réalité des équipes juniors, c'est que les gars vont pouvoir jouer dans la Ligue américaine à 19 ans. Ouais. Alors ça aussi, ça va faire réagir assurément là, du point de vue du hockey junior.
Bon, un sujet un peu plus léger, les gars. Qu'avez-vous pensé du chandail rétro Nordique/Avalanche?
C'est beau.
Moi aussi, j'ai trouvé ça beau.
Vraiment beau.
Sublime.
Très beau.
Ben oui, il est beau.
Aïe, aïe. Non, écoute, c'est comme... Moi, j'aime les couleurs de l'Avalanche. Je trouve que c'est des belles couleurs, là, le mauve avec le bleu et tout ça. Mais là, d'embarquer, tu sais, le bleu des Nordiques dans le chandail, parce que c'est juste le moulage, mais quand même, là, on voit le bleu et... Ah non, moi, je trouve ça...
J'ai une question, les gars. Ouais. Là, eux, ils vont utiliser ce chandail-là pour la classique, là, l'Actao, là, ce week-end,
ouais,
OK?
C'est ça.
Moi, la seule chose que je ne sais pas, c'est le chandail et ce couleur-là, quelle est la couleur du casque et de la culotte? Est-ce que c'est bleu?
Bonne question. Je sais pas.
Ben là, justement, j'ai...
Parce que eux autres, l'Avalanche, sont arrivés cette année avec une nouvelle couleur de culotte, puis là, on est vraiment chronique mondaine, là.
Ben non, mais...
nouvelle couleur de culotte puis de casque. qui était un bleu assez ordinaire. Je sais pas c'était quoi ce bleu-là, mais le chandail est beau, mais faut que ça soit pas pire avec la culotte et le casque.
Je présume que ça va matcher. Là, je peux pas croire qu'ils vont mettre un casque avec une couleur par rapport.
Mais non, je sais, mais le bleu qu'ils utilisaient, c'était pas un beau bleu.
Okay. Là, c'est des casques blancs là, sur le compte Twitter de l'Avalanche. Là.
Ah, ok, oui, c'est ça. Bon. Donc ça va avec le chandail. C'est le blanc du chandail.
C'est un détail important.
Les culottes rouges, rouge vin, là, puis les bas blancs aussi rayés. Donc,
C'est beau.
C'est très, très, très beau. Ouais. Puis, les gars, on va dévier sur le sujet, justement, des matchs extérieurs. Disons que, moi, j'appréciais le match du 1er janvier. C'est un match que, t'es en famille, tu regardes le match. C'était vraiment cool. Je peux pas dire que, tu sais, je portais attention à toutes les minutes du match. Mais cette année.
Alors, on manque d'événements.
Ça va être complètement différent cette année. Avec des matchs qui seront pas dans des stades, mais des stades, des matchs qui vont avoir lieu à des endroits où, visuellement, avec la nature derrière, ça va être incroyable. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça.
Tu sais, moi, j'avais couvert les classiques hivernales à Saint-Tite, là, dans le festival, festival Western. Puis là, cette ambiance-là plus intime, ça nous rappelle plus le hockey sur le lac, là. Ouais. C'est sûrement dans les gros stades, là, ça perd un peu de son. T'sais, on a beau dire, les joueurs sont contents de jouer dehors, tout ça. Mais t'as pas
la glace, ça a de l'air tellement petite dans
c'est
un
ça.
Stade.
Non, c'est vraiment bien. Là, écoute, les images qu'on reçoit, là, depuis quelques heures, c'est fantastique.
C'est incroyable, parce qu'il y en a qui se sont faufilés, qui ont pris des photos, qui ont partagé ça sur les médias sociaux. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez.
Ben, moi, ça me rappelle un petit peu les jeux vidéo, hein, puis je pense que c'est un petit peu aussi le public qui est visé. Tu sais, c'est-à-dire, sur les jeux vidéo, tu peux jouer les jeux sport là, dans plusieurs environnements.
Ah, on the pound, jouer sur le lac,
Exactement, tu sais, puis moi, je trouve que c'est un petit peu un clin d'œil à ça aussi, puis je pense que ça va vraiment plaire... un public beaucoup plus jeune, un petit peu plus in, là, un petit peu plus hip. C'est une excellente initiative, honnêtement, de la Ligue nationale de hockey. Ça fait différent aussi des stades. Mm-hmm. Dans une année qui est différente, je trouve que c'est probablement la meilleure idée là, qu'ils pouvaient trouver. Là.
Le chapeau décor. À la Ligue là-dessus. Là. Ah, ça le décor est magique, fou, là, avec les montagnes et tout ça. Écoute, c'est magnifique. Tu sais, tant qu'avoir un stade où t'as l'impression que le dernier en haut, il n'y a aucune idée ce qui se passe à la glace. Il n'y aura pas de monde, il n'y aura pas rien, juste un beau décor, un match de hockey. Deux matchs en après-midi. On a changé le match, je pense, de dimanche. Hein? On l'a passé de 3h, de 15h l'après-midi à 2h en raison des probabilités de rayons de soleil sur la patinoire où on pourrait être aveuglé. Fait qu'on a changé l'heure là-dessus. Mais outre ça, écoute, j'ai vraiment hâte de voir ça. Vraiment, ça va être du bon hockey avec un décor sublime.
Ça va faire des images historiques. Puis je sais pas, ça va peut-être mener à quelque chose dans les prochaines années. Peut-être qu'on retournera en mettant peut-être des estrades d'un des deux côtés, tu sais, pour au moins avoir des partisans. Mais écoute, ça va être beau.
Ce qui est vraiment hâte un jour, c'est d'avoir un match sur un vrai étang, parce que là, il joue quand même, genre, je pense, sur le verre de golf ou quelque chose qui est adjacent au lac.
Exact.
Le jour où il y aura un vrai match sur une vraie, un vrai lac.
Comme le gars qui patine sur le canal à Amsterdam, qui roule ses réseaux sociaux, qui patine, qui plante dans le
Ben oui, j'ai vu ça. Écoute, c'est pas brillant. Non, moi, je suis pas capable de le regarder. J'ai trop frette pour lui, mais c'était une autre histoire. Mais je m'imagine déjà les compagnies d'assurance, toi, aller jouer sur un lac. Attends, le joueur, il a signé un contrat de combien? 95 millions.
Oh, avec une équipe de sauveteurs qui est là.
Très bon, très bon. Dernier petit commentaire, les gars. Après cette petite pause, on va répondre à une question du public parce qu'étant donné qu'on avait une émission très chargée aujourd'hui, j'en ai retenu seulement une. Donc, on traite de tout ça au retour de ceci. Nous voilà de retour pour la fin de l'émission d'aujourd'hui et on va répondre à une question d'un internaute qui c'est une question assez pointilleuse. Voilà, regarde, comme Jérémy tout à l'heure, je m'accroche dans mes mots. Alors, Alexis Bouchard nous pose la question. Comment la gestion du cap salarial cette année influence les prochaines années avec tous les mouvements d'économie quotidienne et les propos de Marc Bergevin à propos des bonis? Prépare-t-il la masse salariale pour des signatures pour les années à venir? Merci les gars, super votre podcast. Je sais pas si vous pouvez un peu expliquer les gars, c'est que on peut empiéter un peu sur le coussin de l'année suivante si jamais on déborde, mais les directeurs généraux font tout en leur pouvoir pour essayer d'éviter ça, d'où la décision qui a été prise cette semaine de mettre Byron au ballottage, entre autres. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus?
Ouais, oui. OK, ben définitivement. Moi, je vais dire une chose, je vais pas m'embarquer dans les détails que je connais pas pour avoir l'air du Joe connaissant là, mais par contre ce que je me rends compte d'une chose, c'est que oui, on planifie cette année, on fait des économies, on peut dire un peu économie de bout de chandelle, là. On planifie cette année, mais ce qu'on regarde, c'est qu'il y a des signatures qui approchent présentement chez les Canadiens, ouais. Avec Suzuki, avec Keke qui s'en viennent, fait que veut pas, avec un cap salarial qui sera bloqué à 81,5, puis là, Marc Bergevin a même parlé de 4 ans, potentiellement, ouais. À 81,5 wow. Pour 4 années, ça veut dire que si, je répète, si Philippe Dano n'a pas accepté 5 millions au début d'année, ça se peut que ça soit un peu moins, là. Ça se peut que ça soit un peu moins. Fait que donc, ça pour dire, c'est que t'as Keke à signer, t'as Suzuki à signer. Keke reste, c'est la dernière année avant qu'il devienne joueur autonome avec restriction. Suzuki reste encore une autre saison. Ça, c'est sans compter les joueurs autonomes. T'as Lekkonen qui est joueur autonome avec restriction la prochaine saison. Fait que, voyez-vous le casse-tête présentement, là, c'est que, et tu dois bien gérer ta masse salariale, mais tu dois planifier également l'année qui s'en vient et les 2 ans, les 3 ans et les 4 ans qui s'en viennent. Non, c'est un exercice financier qui est assez difficile présentement.
Mais je pense, si j'ai bien compris, Alex, que le Canadien sauvait à peu près 9 000 $ par jour avec le déplacement de Byron sur le taxi squad, quelque chose comme ça. Je pense que pour une période de 4 jours, si je me trompe pas, là, c'est quelque chose comme ça. Donc 36 000 $, ça peut sembler banal là, pour des gens, mais on va gratter les fonds de tiroir au maximum qu'on peut, là.
Ouais, c'est pas banal parce qu'à un moment donné, le Canadien ne peut pas présentement avoir 23 joueurs dans son alignement. Il n'y a pas la place sur le plafond. Donc, ça allait gruger des 9 000 $ comme ça, qui peut augmenter de 21 à 22 puis à 23 joueurs. Donc, ces joueurs-là, après ça, n'ont pas besoin de passer par le ballottage lorsqu'ils sont renvoyés, par exemple, dans l'escouade de taxi. Mm-hmm. On peut juste les garder dans l'alignement sans avoir le risque de les perdre. Donc, c'est important. Mais tu sais, sur le long terme, le plus gros du travail a déjà été fait là, par Marc Bergevin dans l'entre-saison. C'est-à-dire, les joueurs clés de l'équipe sont pas mal tous sous contrat sur du très long terme. Tu sais, Josh Anderson est signé jusqu'en 2027, Gallagher est signé jusqu'en 2027, Toffoli jusqu'en 2024, Jeff Petrie a une prolongation de contrat aussi jusqu'en 2025. Donc, il y a quand même un gros travail là, de fond qui est fait. Le Canadien n'aura pas de mauvaise surprise. Il faut pas oublier aussi que il y a plusieurs joueurs intermédiaires dans l'équipe, là, les joueurs de troisième, quatrième trio, troisième paire de défenseurs, même deuxième paire de défenseurs, qui vont bientôt être remplacés par la génération qui pousse là, présentement. Mm-hmm. Le Canadien a vraiment un gros bassin d'espoir. Je dis pas qu'ils vont être bons nécessairement tous, puis même qu'il va en avoir plusieurs bons là-dedans, mais il va y avoir des joueurs qui vont être payés moins cher. Je veux dire, quand Harris va arriver à un moment donné dans la Ligue nationale, ben il va être au salaire minimum pendant quelques saisons. Mm-hmm. Donc le Canadien va quand même sauver beaucoup d'argent en introduisant des jeunes joueurs comme ça. Honnêtement, je regarde ça à très très haut niveau là. Puis la masse salariale du Canadien me semble très bien gérée là, pour le moment. Je pense pas que ce soit une préoccupation de l'équipe. Là.
Bon, ben les gars, écoute, on a fait presque une heure cette semaine, dans une semaine où il n'y a pas eu de match canadien. Imaginez-vous. Donc, écoute, on a eu le temps de s'étirer sur des sujets un peu plus Ligue nationale. On espère que vous avez apprécié. Alors, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à Michael Lalancette, Jérémy Rainville et Alexandre Pratt. Merci aussi à François Brisson du côté de la mise en onde. Mon nom, c'est Jérémy Filosa. Je vais vous souhaiter un bon week-end et on se retrouve sans faute lundi pour une autre édition de Sortie de zone. Salut tout le monde!